Bonjour, c'est Geoffrey. Vous écoutez le deuxième épisode du Diable était là. Précédemment, Joris faisait découvrir son histoire sur la rencontre entre des enfants et un esprit malveillant caché dans un tunnel du canal du Midi. Celui-ci venait de se faire réveiller par un coup de caillou et réclama vengeance. Geoffrey vous raconte. Le diable était là. Tous avaient entendu ce terrible écho. Qui a jeté cette caillasse? Et tous s'imaginèrent que la voix rauque provenait de la cavité ténébreuse au-dessus de leur tête. Certains enfants s'émurent et pleurèrent, tandis que d'autres observaient Pierre fêter sa victoire. Celui-ci s'enorgueillit d'avoir réussi son coup, contrairement à la dernière fois avec sa famille.
Jetez l'enfant dans l'eau si vous souhaitez sortir du tunnel,
ordonna la voix d'en haut. Capitaine, c'est très drôle, dit Rosaline pour rassurer les petits et en faisant semblant de parler au chef de bord. Nous allons bientôt sortir là et on ira manger un casse-croûte.
Non, je veux qu'on me venge.
Sophie et bien d'autres remarquèrent que l'issue paraissait de plus en plus loin, comme si le tunnel et l'eau s'étaient dilatés. Les pleurs et les cris s'intensifièrent à cause des grognements de ce possible Basile, tandis que les adultes ne purent cacher leur effroi, incapables de réagir.
Noyez l'enfant qui se moque de moi, si vous souhaitez revoir la lumière.
C'est qui ce cinglé qui veut faire du mal à un gosse? S'énerva la cuisinière.
C'est moi qui ai jeté cette pierre, s'exclama le maître d'école. Je vais me jeter.
Menteur! La pierre sent le caramel que le petit Pierre a volé à Martin. Vous êtes dans mon domaine. Personne ne peut me cacher la vérité dans mon domaine. Écoutez-moi. Je veux juste que ce diabletin soit puni à ma manière. Si vous souhaitez sortir sain et sauf.
Nous pouvons vous donner autre chose à la place, suggéra Rosaline. On a de beaux bijoux et des pièces.
Je me fous de vos babioles. Je veux cet enfant qui m'a blessé.
Tous étaient effrayés de voir que la péniche voyageait éternellement dans ce tunnel. Certains comprirent qu'ils n'étaient plus maîtres de leur destin, que le train fantôme était un divertissement comparé à cette traversée cauchemardesque. Le silence était devenu l'unique remède à la peur. Mais pour une seule personne, il était oppressant. Pierre, le responsable du crime, se mit à désigner Martin comme le terrible tireur.
Lâche! Vos mensonges sont aussi nauséabonds que le sang qui coule sur ma bouche, que la pierre a fondu.
Soudain, la grêle semblait tomber sur le pont. Au départ, ça semblait léger. Puis les coups devinrent plus menaçants. Des étincelles jaillirent. Puis des cris résonnèrent, aussi forts que les sanglots. En dehors du tunnel, chaque vie pouvait ressentir la douleur des voyageurs. Ce n'était pas de l'eau qui tombait, mais des cailloux qui les frappaient. Tous souffraient, hormis le survivant. Quand enfin la péniche sortit, le pont baigné de sang, il ne restait plus que le joyeux Pierre qui jetait de ses poches sans fond des roches mortelles. Joris reprit son cours. Je préfère commencer par ma nouvelle, pour qu'on se concentre après sur les vôtres. Sinon, on manquera de temps. Ruth, tu devais lire mon texte. Qu'est-ce que tu veux dire dessus?
Oui, j'ai bien aimé le moment où le petit garçon a peur qu'ils vont le jeter dans l'eau.
Qu'on le jette dans l'eau, rectifia le prof.
Oui, qu'on le jette dans l'eau.
Pourquoi?
Parce que je me suis demandé si le petit garçon n'a pas pensé qu'il allait être sacrifié,
dit-elle en regardant ses notes.
C'est effrayant.
Norma la coupa.
Moi, je trouve horrible de s'en prendre aux enfants. Je ne peux pas regarder un film d'horreur avec des enfants qui meurent.
Votre histoire me fait peur, professeur.
C'était le but, se défendit Joris.
Bon, on peut passer à la nouvelle de Malkuel, sinon j'imagine qu'on va manquer de temps.
Vous me connaissez, je préfère aller plus vite au début.
Je crois que c'est Leonardo qui doit donner son avis.
Exactement, Joris, confirma ce dernier. J'ai bien aimé John Jean. Il pouvait penser à moi.
Je rigole.
Lecture de la nouvelle de Malkuel intitulée « Trois pas vers John Jean ». Le premier pas que fit Mike vers John Jean, c'était en observant la photo publiée par ce dernier. L'acteur du lycée, l'Australien à la beauté devenue divine, aux traits androgynes, au regard ténébreux et aux bras herculéens. Sur son nouveau poste, qu'il partagea sur tous ses réseaux sociaux, on voyait ses pectoraux bien dessinés sous un t-shirt noir à fleurs blanches conçu par un célèbre couturier japonais. Mike en semblait jaloux et se demandait comment il avait fait pour paraître aussi beau en si peu de temps. Au fond, il se doutait que John Jean était doté d'un bon mélange d'ADN et n'avait eu besoin que de cours de sport basiques. Que la nature était injuste. Lui, Mike, c'était un gars qui prenait du poids facilement, toujours un peu gras, des hanches de femme. Il n'avait aucune motivation concernant la pratique sportive. Tout ce qu'il savait faire, c'était de rester sur le canapé à regarder la télé ou à jouer aux jeux vidéo. Ses mains touchaient plus les manettes que les haltères. John Jean était ce qu'il souhaitait. Tout lui était offert. Hollywood, la popularité, la beauté. Alors qu'il n'avait que 17 ans et que ses parents étaient de simples vendeurs de bonbons au sud de Los Angeles. En regardant la deuxième fois la photo, il jalousait ses bras musclés et compara les siens qui lui semblaient flasques. Le deuxième pas qu'il fit vers John Jean, c'était dans les toilettes du lycée, un jeudi, alors qu'ils étaient tous les deux en retard. Mike avait vu la star en train de se laver le visage et maudire ses lèvres. Le bel ado avait l'air normal, un gars sans prétention et poli. A l'inverse, son camarade s'attendait à le voir scruter sa figure à la manière de Narcisse, prêt à embrasser sa propre bouche. Dans la réalité, John Jean semblait presque blasé et redressa ses cheveux noisettes comme ceux des acteurs des années 90. Au moment où il alla se laver les mains, Mike ne put s'empêcher de regarder les bras en béton du lycéen. Ce dernier le remarqua et lui dit « Toi aussi tu peux avoir mon corps. Tu as tout qui est prêt, mais il suffit d'une volonté de fer. Avant j'étais tout fin et j'avais des cheveux tout gras. Un enfer. On se moquait même de mon côté androgyne. Maintenant, c'est un atout. » Avoua-t-il en lui faisant un clin d'œil. Mike l'avait regardé de haut en bas et demanda en un minimum d'hésitation. « Tu peux m'apprendre comment on fait ?»« Tout de suite, oui. Allons-y, tiens, le lycée peut nous attendre. » Assura-t-il en percevant la peur de Mike de sécher les cours. « Tu ne peux pas faire un pas en avant puis un en arrière. La terre ne tourne pas dans les deux sens. » Rajouta-t-il en tournant sur lui-même. « Au fait, tu as ton portable pour vérifier si la route du Mont San Antonio est enfin ouverte ?» Non, il est tombé dans les toilettes hier soir. C'est pas vrai. Tu l'as mis dans un sac de riz ? Oui. Mike mentait. La veille, il avait jeté son smartphone contre le mur de sa chambre, avec fureur. Bon, je pense que la route est accessible. Ça fait 3 jours maintenant que le gars est mort. En effet, sur le chemin de la montagne, un jeune homme s'était immolé. Il était temps de sortir. John Jean regarda sa montre, puis son reflet une dernière fois en passant du baume sur ses lèvres pour les apaiser. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour avoir des lèvres aussi douces tout le temps? Toi, t'as de la chance, elles sont parfaites, dit-il en touchant celles de Mike. À cet instant, ce dernier serra les poings, puis faillit repousser son camarade. Calme-toi, je ne vais pas te mordre, je te fais juste un compliment. Apprends à les accepter. L'esprit de Mike bouillonnait. Comment osait-il le toucher avec cette délicatesse presque féminine? Toutefois, le colérique supporta tout de même d'aller dans la voiture de John Jean. Il fallait se l'avouer. JJ donnait le sentiment de draguer Mike. Il le fixait beaucoup en souriant. L'autre lycéen fronçait les sourcils, serrait les dents et s'apprêtait à frapper le beau gosse s'il essayait encore une fois de le toucher.
Quelques minutes plus tard, à plusieurs centaines de mètres d'altitude, John Jin se gara au bord du précipice pour regarder la vue californienne. Il semblait songeur et absorbé par la magie du paysage. Mike était déstabilisé par son silence. Le conducteur sortit sans rien dire et son nouvel ami décida de le rejoindre. Le nouveau sportif eut comme une impression d'illusion, que tout était faux. Ce n'était pas possible que ce bel homme partage son temps avec lui. Quelque chose d'irréel s'était installé, ou ce n'était que le destin. Intimement, le colérique lycéen essayait d'imprimer la silhouette musclée de l'Apollon dans sa mémoire. C'était peut-être la seule fois où il partagerait des souvenirs avec lui. Le troisième pas vers John Jin était le bon, celui qui menait vers la vérité. Celui dont il enviait la beauté se retourna, souriant toujours avec splendeur. Mike ne pouvait plus faire marche arrière. Il fit cet étrange pari de l'embrasser, pris d'une liberté qu'il avait longtemps enfouie, prêt à poser ses lèvres sur celles du beau lycéen. Ce dernier continuait de lui témoigner de la sympathie, lui tint doucement les bras, mais John Jin le fit tourner à l'opposé, puis le poussa dans le vide. Mike était horrifié, les yeux exorbités, le souffle coupé, l'esprit frit de frayeur, celle de ne plus avoir pied, les mains désirant s'agripper à celle du fou, mais c'était trop tard. La chute fut terrible, et sans possibilité de retour à la vie. John Jin ne témoigna aucune peine, préférant toucher ses nouvelles et douces lèvres, et jeta son baume avec satisfaction.
C'est très personnel, Michael, supposa Joris. Le héros s'appelle Mike, c'est ton surnom, non? J'espère que tu n'es pas attiré par moi.
Renchérit Leonardo.
Je ne veux pas te jeter dans la falaise. Michael se mit à rougir et se défendit. « Non, tu es trop hétéro pour moi. »«
Trop ? J'ai déjà eu des expériences homosexuelles, tu sais. »«
C'est vrai ?» ironisa Rose. « Bon, je ne suis pas très étonné. » La jeune Espagnole ne semblait pas sympathique. « Tu devrais essayer les filles, » attaqua son ennemi d'Amérique du Sud. « Tu serais peut-être plus rayonnante. »«
Mon chéri me rend heureuse. Je n'ai pas besoin de coucher avec n'importe qui pour combler un manque affectif. »
Et pourtant, tu devrais tourner ta langue plusieurs fois avant d'être catégorique.
Bon, les chamailleries, c'est dehors,
sermonna le professeur. On est ici pour avoir des conversations calmes et enrichissantes.
Pardon, Joris, c'est vrai,
s'excusa l'Espagnol.
On ne fait que s'amuser un peu,
corrigea Leonardo.
C'est Halloween. À ce sujet, on aurait pu se déguiser. J'aurais bien voulu venir dans mon costume de dandy. Route en prostituée, ça aurait été sympa.
Hostia !
S'énerva Route. Joris dut encore s'interposer.
Leonardo, le respect s'il te plaît.
Quelques secondes passèrent. Et j'oublie, évidemment, j'ai corrigé vos fautes. Je vous passerai la version avec des corrections en rouge. J'ai mis des commentaires pour ne pas vous laisser sans quelques avis positifs et négatifs.
Merci, commença Michael, puis suivi par l'Argentin.
Oui, merci, Joris. Je ne pense pas avoir fait trop de fautes.
Pourquoi es-tu aussi prétentieux ? Coupa Veronica.
Tu manques d'amour ? Ton papa ne s'est pas beaucoup occupé de toi ?
Joris ne chercha pas à réagir, un poil amusé et curieux de la suite. Puis il regarda Michael, qui s'apprêtait à mettre son grain de sel.
Moi, je me demande si tu as fait un pacte avec le diable.
Tout le monde ria, et soudain, la porte s'ouvrit avec force.
Dans le prochain épisode, nous découvrirons qui fait une apparition surprenante dans la classe de Joris. Une personne perdue ou quelqu'un destiné à venir ?